Canal FM 93.5.
Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne va pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve orpheline.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre.
Donc du coup, je pense véritablement que
il faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission sur la radio 93.5, bien sûr, Canal FM. Vous posez justement la question de savoir est-ce qu'il y aura d'émission, surtout que la journée est fériée. Vous posez cette question, mais certainement il y aura d'émission puisque nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui jeudi 15 août 2024, c'est un jour férié. Il sonne 11h sur votre radio, vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'ATVI assure la mise en onde et aussi la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Comme toujours, vous le savez, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Émission Club de la Presse spéciale. Ce matin, nous ne serons pas avec des confrères journalistes, mais nous avons un invité. C'est pour cela même d'ailleurs que nous parlons d'émission spéciale. Et l'invité, c'est bien Nathanel Olympio. Monsieur Olympio, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui, c'est le 15 août, c'est l'Assomption.
Tout à fait.
Je souhaite une bonne fête d'Assomption à tous les catholiques du Togo et du monde. Et c'est un plaisir de partager cette émission avec vous.
Alors, justement, jour férié, d'habitude, hein, comme celui-ci, je vais bien parler alors de ce jour férié. Et qu'est-ce que vous faites à la maison souvent?
Écoutez, c'est d'abord la prière du jour qui s'impose à tous les catholiques et puis c'est aussi un moment de calme, de réflexion et de travail parce que le travail continue toujours.
Alors nous vous avons invité ce matin pour parler de cette campagne, cette nouvelle campagne lancée le lundi dernier et c'est dénommé bien sûr Togo sans prisonniers politiques. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais, aussi coordonnateur de l'organisation, ou du moins du front, tous pas à ma constitution, mais je ne sais pas trop si vous êtes vraiment le coordonnateur.
Je suis porte-parole du front Touche pas à ma constitution.
Ah, porte-parole, bien sûr. Donc là, je dois réactualiser ou faire une mise à jour de ma connaissance. Alors, sur ce point, merci de nous avoir donné l'information porte-parole. Alors, c'est vrai, vous avez lancé cette campagne tout récemment. C'était le lundi dernier. Mais la question est de savoir, qu'est-ce qui motive d'abord une telle campagne?
Alors, la campagne pour la libération des prisonniers politiques, qui est dénommée Togo sans prisonniers politiques, répond à un principe simple que nous avons appris chez les militaires. On ne laisse pas un compagnon blessé sur le champ de bataille entre les mains des persécuteurs. Voilà, c'est le principe de base. Et cette campagne vise à faire savoir d'abord à ceux que nous considérons comme des héros. Ces prisonniers sont pour nous des héros parce que ils sont en prison, ils ont perdu leur liberté en défendant notre liberté, en défendant l'état de droit, en défendant les valeurs de la démocratie. Donc, ce sont nos héros. Nous voulons donc leur faire savoir d'abord qu'ils sont nos héros, ensuite qu'ils ne sont pas seuls et que même derrière des barreaux, même derrière des murs de plusieurs mètres de haut, ils sont dans nos cœurs. Nous pensons à eux et nous travaillons pour leur libération. Vous savez, beaucoup de choses ont été faites dans ce sens-là. Je pense, par exemple, au comité de libération des prisonniers qui avait été mis en place, qui a fait un travail considérable. Je pense à l'engagement des femmes pyramides qui aussi ont pris ce sujet des prisonniers à bras-le-corps. Et nous nous inscrivons dans la poursuite de ces efforts-là parce que ils sont toujours en prison. Nous voulons donc les honorer. Nous voulons également faire comprendre à leurs familles que les prisonniers ne sont pas abandonnés. Parce que certains sont dans un état de détresse avancée, frappés par la maladie pour certains. Et je prends par exemple quelques cas rapidement que je vous cite.
Oui.
Quelques cas rapides.
Oui.
Vous prenez le cas de Madame Leila Nambar-Tagba, qui est en prison depuis décembre 2019, 5 ans pratiquement qu'elle est en prison. Elle a un enfant qui est né peu de temps avant son arrestation. Eh bien, figurez-vous que sa fille ne la reconnaît pas comme maman. C'est une tragédie. Vous prenez le cas de Alès Sati. Ce monsieur est en prison depuis 2018. Eh bien, a perdu son enfant pendant qu'il était en prison. Son autre enfant a réussi au bac cette année. Il n'est pas là pour accompagner sa famille. Ce sont des histoires personnelles très fortes qui viennent s'inscrire dans le chiffre qu'on avance. On parle de 92 prisonniers politiques. Mais ce sont des vies qui sont brisées. Tout comme le cas de Jean-Paul Omoulou qui rentre à vacances et qui se retrouve derrière les barreaux. Un dernier que je peux citer, c'est Aziz Goma. Tout le monde a entendu parler de la détresse due à la maladie dans laquelle il est. Et tout ça, ce sont des cas qui nous interpellent. Parce que, comme l'artiste Fadel aussi, ce sont des cas qui nous interpellent parce que ce sont des histoires humaines, des vies brisées qui se cachent derrière le nombre pléthorique de prisonniers politiques.
Alors souvent quand on parle alors de prisonniers politiques, et c'est justement l'opposition qui utilise bien cette terminologie, mais au niveau du régime en place, on parle plutôt alors des prisonniers de droit commun ou des détenus alors de droit commun. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que chacun utilise alors les thèmes à sa manière et aussi par rapport à ce qu'il pense.
C'est machiavélique de leur part. C'est du cynisme pur et dur. Vous savez, pour certaines personnes, pour certains des prisonniers politiques, des démarches judiciaires ont été menées au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO, qu'on ne peut pas taxer d'impartialité vis-à-vis des prisonniers, a pris des décisions demandant à l'État togolais de libérer immédiatement, je dis bien immédiatement, ces prisonniers politiques. Eh bien, à ce jour, l'État togolais refuse catégoriquement de libérer ces prisonniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens ne sont pas, ces personnes-là, nos héros, ne sont pas en prison à cause d'une affaire de droit commun, mais plutôt pour des considérations politiques. Sinon, l'État togolais aurait respecté le droit qui est dit et aurait libéré s'il s'agissait d'une affaire de droit commun. Donc, cela le prouve. Ensuite, des organisations internationales ont également reconnu le statut de prisonnier politique. selon les critères de l'ONU. Selon les critères de l'ONU. Et je dirais, pour terminer, que si l'État togolais qui a souscrit aux règles internationales, qui a ratifié des conventions, ne respecte pas ces conventions-là, eh bien, ça veut dire simplement que ce sont des considérations politiques qui font que les gens ne sont pas libérés.
Alors, Monsieur Olympio, je suis tenté alors de vous poser la question de savoir, mais pourquoi c'est maintenant que vous avez décidé alors de faire ou de lancer cette campagne, puisque vous avez parlé entre-temps des prisonniers politiques alors qu'ils sont en prison il y a de cela 5 ans, d'autres 6 ans et des années un peu que nous avons, vous avez évoqué tout de suite. Mais comment se fait-il que c'est maintenant que vous lancez cette campagne?
Alors, n'oubliez pas que le front Touche pas à ma constitution a été mis en place simplement en mars 2024. Et nous avons engagé une lutte dans le cadre de du changement de constitution. Mais vous savez également que le mal qui ronge le Togo, ce n'est pas qu'une question de constitution changée. Le mal qui ronge le Togo, ce sont toutes ces souffrances qu'on inflige aux Togolais par une gouvernance qui n'est pas menée pour la prospérité des Togolais. Les Togolais sont malheureux. Les Togolais sont traumatisés par une violence excessive de l'État sur la population. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, des efforts ont été engagés par d'autres initiatives. Nous venons aujourd'hui apporter notre contribution. Pourquoi maintenant? Mais maintenant, parce que il n'est jamais trop tard pour apporter un réconfort et un accompagnement à la souffrance des autres. Ensuite, nous sommes dans la continuité de la lutte qui est menée depuis des décennies. Et certains des nôtres sont pris en otage par le régime, après l'instrumentalisation de la justice. Ils sont pris en otage. Ce sont des prisonniers politiques. Nous menons des actions politiques. Il est donc normal que maintenant, nous leur apportions cette assistance, cette reconnaissance et ce statut de héros que nous voulons proclamer haut et fort pour que la nation tout entière, que la communauté internationale sache que au Togo, il y a des prisonniers politiques.
Est-ce qu'il y a un lien entre cette campagne et aussi la mobilisation qui se faiblit entre-temps, hein, par rapport surtout aux activités ou aux manifestations politiques?
Pourquoi d'abord la mobilisation faiblit-elle? C'est le point de départ. Cette mobilisation faiblit parce que le régime exerce une violence inouïe sur la population, pour terroriser la population, pour traumatiser la population. Et bien sûr, cela produit un impact. La population est réservée, elle a peur. La population a peur. Elle est contre ce qui se passe dans le pays. C'est pour ça que le 29 avril, les gens ne sont pas sortis voter. À l'appel insistant du pouvoir, les gens ne sont pas sortis voter. Mais les gens ont la volonté permanente de voir ce régime dégagé. Alors, il faut remobiliser cette population. Pour cela, nous devons nous aussi gagner à nouveau leur confiance. Quand je dis nous, je parle de l'opposition dans son ensemble. Nous devons gagner la confiance de l'opposition, de la population. Parce que, cette lutte est menée depuis 30 ans. Les gens ont sacrifié beaucoup de choses. Nous avons tous sacrifié beaucoup de choses, mais nous n'obtenons pas encore les résultats. Il peut y avoir une certaine déception de la part de la population. C'est pour ça que nous devons nous réengager à reconquérir la confiance de la population, à redonner courage à la population, à remobiliser cette population-là. C'est le travail qui est en cours. C'est fait de différentes manières par les différents groupes qui sont en place. Je parle de Togo Debout, par exemple, qui organise régulièrement des meetings de sensibilisation. Et nous qui sommes aussi dans une démarche de sensibilisation, comme vous l'avez noté.
Alors, c'est vrai que quand je parle alors de rapport entre ceux qui sont aujourd'hui des prisonniers politiques et aussi des manifestations qui faiblissent alors sur le terrain, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, ces gens-là qui sont en prison se considèrent tout simplement, ou bien pensent tout simplement que, ou du moins, c'est ceux qui sont également au niveau de la population, pensent que mais, ces gens qui sont en prison sont totalement délaissés, abandonnés par vous qui êtes alors des hommes politiques qui avaient entre-temps organisé des manifestations, et c'est au cours de ces manifestations qu'ils ont été appréhendés.
Alors, il faut reconnaître, en tout cas c'est la lecture que nous faisons, que l'organisation aurait pu être beaucoup plus forte autour des prisonniers politiques depuis 2018 que certains sont en prison. Et c'était suite aux appels à manifestation lancés par le collectif de l'époque, la coalition de l'époque C14. C'est vrai donc qu'un effort beaucoup plus global aurait pu être mené. Les initiatives qui ont été menées sont des initiatives éparses. C'est vrai que ces prisonniers peuvent penser qu'ils sont abandonnés. Mais non, ils ne sont pas abandonnés. C'est pour ça que certains s'en sont déjà occupés. C'est pour ça que nous aussi, nous venons apporter notre contribution, même si nous pouvons reconnaître que les choses auraient pu être mieux faites depuis le début, depuis 2018. Eh bien, il n'est pas trop tard. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire aux prisonniers que nous sommes avec eux, de tout cœur, que nous reconnaissons leur sacrifice. Ils ont perdu leur liberté en défendant notre liberté, et donc nous allons œuvrer davantage et plus que jamais pour que leur liberté devienne une réalité.
Alors derrière cette campagne, est-ce qu'il n'y a pas un aveu de culpabilité au niveau des hommes politiques que vous êtes?
Il y a un aveu d'insuffisance. Nous avons eu une certaine insuffisance, et oui, on peut le dire, moi je suis profondément blessé, ça me peine que les nôtres soient injustement emprisonnés, et que ce qu'on aurait pu faire de manière plus forte n'a pas été fait. Nous n'avons pas ensemble, comme on s'était retrouvé dans la C14, à 14 partis politiques, eh bien pour les prisonniers, nous ne nous sommes pas retrouvés à 14 partis politiques, par exemple, pour les défendre. Oui, on aurait pu mieux faire. Ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai compris que nous avons eu une défaillance à ce niveau-là. Et j'ai présenté des excuses au peuple togolais pour des choses de cette nature-là. C'est vrai que la démarche peut ne pas plaire à tout le monde, mais je crois également que dans la lutte que nous menons, parfois, nous devons remettre en cause notre approche. Nous devons faire une révision de la manière dont la lutte est menée. Et personne n'a la science infuse. Personne n'a non plus le monopole de la lutte. Parce que personne n'est dépositaire tout seul de la lutte. Personne n'est héritier tout seul de la lutte. Tous les Togolais ont le droit et même le devoir de s'engager dans cette lutte-là. Nous la menons de la manière dont nous la comprenons parce que nous avons compris que le peuple togolais a besoin d'une lutte de vérité, de dire les choses telles qu'elles sont, sans jouer avec la vérité. Nous avons également compris qu'il faut jouer dans la sincérité avec les Togolais. Ça n'a pas toujours été le cas au sein de notre opposition.
Alors, est-ce que vous estimez par là que l'opposition n'a pas été sincère de par le passé avec les populations?
Je pense que nous pouvons avoir des lectures différentes des choses qui ont été faites par l'opposition. Moi, j'estime que parfois, il y a des actes qui sont posés. Quand on les regarde dans la succession, la succession des actes qui sont posés, on arrive à cette conclusion que parfois, il manque de sincérité. On ne peut pas non plus cacher qu'il existe au sein de l'opposition des affinités étroite avec le pouvoir. Et donc, les actes qui sont parfois posés par les uns les autres sont incompréhensibles. Et quand on fait l'analyse de ces faits-là, de ces actes, eh ben, il s'impose une conclusion. C'est que certains sont beaucoup plus préoccupés par leurs intérêts particuliers, partisans, que l'intérêt général. C'est une réalité que personne ne peut nier. Donc, il est temps Et c'est ce à quoi nous nous sommes engagés, à mener une lutte de vérité, une lutte de sincérité.
Alors parlons, ou revenons à cette campagne lancée le lundi dernier. Alors concrètement, la campagne va consister à faire quoi?
Comme je le disais tout à l'heure, d'abord, c'est d'adresser un message à nos héros qui sont derrière les barreaux, que ils ne sont pas seuls et que nous sommes complètement engagés pour leur libération. Le même message, bien sûr, est adressé à leurs familles, parce que ces familles-là sont dans la détresse, une détresse humaine. Au-delà de ça, nous mettons les projecteurs sur la situation des prisonniers politiques au Togo pour que tous les Togolais en soient informés, mais aussi à l'extérieur du Togo, interpeller les organisations internationales. Le Togo a souscrit à des engagements internationaux qui ne sont pas respectés. Il y a des décisions de la CEDEAO qui ne sont pas appliquées, de la Cour de justice de la CEDEAO qui ne sont pas appliquées. Nous allons donc interpeller toutes ces organisations pour que le Togo se rende compte, pour que les dirigeants du Togo, les autorités togolaises se rendent compte qu'elles ne peuvent pas continuer à diriger le pays comme si elles étaient en autarcie, sans tenir compte de ce qui se passe à l'intérieur, sans tenir compte des engagements internationaux.
D'accord. Est-ce qu'il y aura aussi un soutien matériel, un soutien moral et psychologique également à l'endroit de ces prisonniers, parce qu'ils en ont besoin, et aussi au niveau même d'ailleurs de leur famille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu?
Bien sûr que ce n'est pas l'aspect que nous mettons le plus en avant, mais c'est vrai que les besoins sont considérables pour les prisonniers. Les besoins sont considérables pour la vie quotidienne, simplement pour manger décemment, ce qui n'est pas facile. Ce sont les familles qui ont cette charge sur elles. Les gens qui sont en prison, nos héros qui sont en prison, ne travaillent pas et donc leurs familles sont délaissées, sont dépourvues de ressources. Tout cela, ben, ça génère un besoin que nous devons prendre en compte, nous devons nous organiser pour satisfaire ces besoins-là. Certains d'entre eux n'ont pas la capacité de se payer le service d'un avocat de manière correcte. Tout cela, nous devons le prendre en compte pour que leurs conditions soient améliorer au quotidien.
Alors, quand on parle alors des prisonniers politiques, tels que vous l'évoquiez, alors la question est de savoir aussi, est-ce que vous ferez également de votre possible pour qu'il y ait un procès pour ces prisonniers politiques, parce que il y a beaucoup de ces gens-là qui sont en prison, et compte tenu même d'ailleurs de la lenteur administrative, judiciaire bien sûr, alors ça fait qu'ils sont là sans procès et ils ne savent même pas ce que l'endemain leur réserve.
Alors, il y a ce problème qui est réel. On met les gens en détention pendant des mois et des années sans que ces gens-là ne puissent se défendre, parce qu'il n'y a pas de procès. Il y a le cas de ceux qui ont été torturés, véritablement. Et la Cour de justice de la CEDEAO a reconnu ces cas de torture. Et quand c'est comme ça, eh bien, la libération est immédiate, sans procès. Les cas de torture reconnus par les instances sous-régionales doivent donner lieu directement, sans procès, à la libération de ces personnes, qui n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. Donc, nous allons continuer de nous battre avec nos moyens, non pas les clés de la prison, mais nous allons continuer à mettre la pression localement et aussi en interpellant les autorités au niveau des organisations internationales.
Alors, au cours de ce temps, vous avez déjà évoqué la décision alors de la Cour de justice de l'AO par rapport même à cette question alors de prisonniers politiques. Mais finalement, c'est quoi l'impact alors de cette décision sur tout ce qui se passe?
Je vais d'abord rappeler l'extrait d'un discours que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a prononcé pendant le sommet, le 65e sommet de la CEDEAO à Abuja. Eh bien, dans son discours, il a interpellé les États de la CEDEAO qui ne respectaient pas les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Eh bien, ça concerne directement le cas du Togo. Ça concerne directement le cas du Togo. Ça veut dire que les États eux-mêmes, les chefs d'État eux-mêmes, commencent à prendre conscience que la Cour de justice de la CEDEAO est un instrument qui n'est pas respecté. D'accord? Donc, on espérait que les choses commencent à s'améliorer de ce côté-là, parce qu'il y a une prise de certains chefs d'État. Mais l'impact est réel, parce que c'est l'immense pays. On ne peut pas clamer et proclamer sur toutes les ondes que le Togo est un État de droit et que le moindre droit, la moindre décision de droit qui est prise, l'État togolais refuse de l'exécuter. C'est complètement incohérent. Et ce sont les mêmes personnes qui déploient une énergie considérable à l'extérieur du Togo pour jouer aux facilitateurs dans les crises qui se déroulent ailleurs. Pendant ce temps, ils oppriment leur peuple, ils les maintiennent injustement en prison et même ils refusent d'appliquer des décisions de justice. Mais c'est simplement parce que ce sont des considérations politiques qui maintiennent ces personnes en prison. Donc oui, l'image du Togo se dégrade par cette gouvernance-là.
Intéressons-nous à ce front, et front touche pas à ma constitution. On sait que le front s'illustre alors plus alors dans la contestation contre la nouvelle constitution qui a été promulguée le 6 mai dernier. Alors, finalement, est-ce que ça veut dire que cette lutte contre la constitution a été rangée par rapport surtout à cette campagne que vous venez de lancer?
Mais vous savez, dans une dictature, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en considération dans la lutte. Nous nous sommes dressés contre le changement de constitution, mais la lutte n'est pas terminée sur ce volet-là. Cette constitution-là, ils cherchent toujours à la mettre en application. Donc, nous allons toujours continuer à nous dresser contre cette constitution. Eux, ils ont mis 32 ans pour démanteler complètement la constitution de 1992. Ils ont mis 32 ans à la retirer complètement. Eh bien, ils viennent de promulguer leur constitution le 6 mai. La lutte ne fait que commencer par rapport à cette constitution. Et nous allons continuer inlassablement, jour et nuit, à nous dresser contre cette constitution qu'on veut imposer au peuple togolais en violant les droits fondamentaux des Togolais, en violant la constitution qui était en place depuis 1992, constitution votée par plus de 87% des Togolais. Alors que, eux, ils se sont levés un beau matin et ils annoncent à la population qu'ils ont changé la constitution dans la lune et que dans la nuit et que nous sommes dans une nouvelle république. Alors, on ne peut pas l'accepter.
Alors, jusqu'où irez-vous avec cette lutte ou cette contestation avec contre la nouvelle constitution? Parce que je pose la question parce que on a l'impression comme si le chien aboie, la caravane passe là.
Mais jusqu'au jour là, le chien va mordre. Et oui, c'est comme ça. La caravane peut chercher à passer. Mais ces gens-là, ces autorités togolaises-là, sont dans l'incohérence à tel point que, après avoir promulgué leur constitution le 6 mai, c'est maintenant qu'ils cherchent à aller voir en Inde comment fonctionne un régime parlementaire. C'est complètement illogique. C'est incompréhensible. Vous voyez, le gouvernement togolais a été dissous après la promulgation de cette constitution-là. Il a fallu plus de 2 mois passer pour que le chef de l'État daigne reconduire son ancien chef de gouvernement. Et ça fait quoi? 2 semaines, non?
À peu près. Pratiquement 2 semaines.
Que la première ministre a été remise en selle. Mais nous attendons toujours qu'il y ait un gouvernement. C'est quoi les difficultés? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que le chef de l'État affronte autant pour qu'il soit dans l'incapacité de mettre en place un gouvernement? Vous savez, ils ont créé un désordre institutionnel dans le pays. Aujourd'hui, c'est le grand écart entre la constitution de 1992 et leur constitution qui viennent de chercher à imposer au peuple togolais. C'est le grand écart. Personne n'y comprend rien. Aujourd'hui, quand vous voulez poser un acte, eh bien, il va falloir chercher sous quelle constitution vous allez placer la décision que vous allez prendre.
Et sous quelle autre constitution vous allez vous référer, à quelle autre constitution vous allez vous référer pour prendre une autre décision? Mais on n'y comprend rien. Ils ont créé un désordre institutionnel, ils ont créé un désordre social dans le pays.
Alors, quand je pose la question concernant jusqu'où vous irez avec la lutte de cette constitution, on sait que vos manifestations ces derniers temps, on voit que mais des manifestations sont interdites. On se souvient même d'ailleurs de cette de ce meeting ou de ce sitting, j'allais dire, de ce sitting que vous avez voulu organiser déjà devant la Cour constitutionnelle, mais finalement que le ministre Awaté vous a notifié même d'ailleurs que cela a été interdit. Alors finalement, comment vous avez accueilli l'information et qu'est-ce que vous prétendez faire par après?
C'est un abus de pouvoir, pur et simple. Ils ont voté une loi complètement liberticide pour empêcher qu'on puisse manifester devant les institutions de la République, devant les routes à forte charge commerciale, devant les chancelleries, devant tout ce qui représente une autorité. C'est une interdiction de fait de manifestation. C'est une violation de nos droits fondamentaux. C'est une violation du droit de la liberté de réunion. C'est une violation de la liberté d'association. Et je rappelle que lorsque cette loi a été votée, les rapporteurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a demandé au gouvernement togolais de relire cette loi-là et de se conformer aux dispositions internationales. Le Togo n'a pas tenu compte de ces avis-là. Et donc, nous sommes dans un régime où les libertés sont bafouées, le droit est bafoué et on interdit les manifestations. Mais je pense que on ne peut pas continuer à opprimer inlassablement la population et espérer qu'elle reste indéfiniment les bras croisés. Un jour viendra où cette population va crier son ras-le-bol et va dire à ce régime, ça suffit.
Est-ce que par là, par rapport même d'ailleurs à cette interdiction, est-ce que vous avez l'impression que l'espace civique devient de plus en plus restreint, hein? On se souvient également de ces derniers événements avec la sanction que nos consoeurs, enfin notre radio consoeur bien sûr, Radio Victoire a reçue tout récemment avec également l'animateur de l'émission Joachim Arbetine. Et finalement, est-ce que l'espace civique reçoit alors des coups de restriction?
L'espace civique au Togo est en train d'être réduit à peau de chagrin. On a engagé contre l'espace physique une bataille. Vous savez, depuis l'engagement du Togo dans le processus de démocratisation, les luttes qui ont été menées ont permis de gagner des espaces de liberté. Et ce régime s'est évertué petit à petit à démanteler toutes ces libertés qui ont été acquises. Sur le plan civique, sur le plan politique, c'est pour ça que quand on est face à un régime de nature dictatoriale, on ne peut pas mener la politique des petits pas en se disant on va acquérir ceci aujourd'hui par la lutte, c'est un acquis, demain on va faire l'effort d'acquérir autre chose et petit à petit on va avancer. Eh bien, ça ne fonctionne pas, parce que tout ce que vous pouvez acquérir par l'effort, du jour au lendemain, le régime peut les balayer d'un revers de main. Et c'est ce qui se passe au Togo. L'espace civique est en train de se détruire, d'être détruit complètement. Il faut qu'on prenne conscience, tous, de cela. Les médias, les religieux, la société civile, les politiques, la population togolaise, nous tous, nous sommes exposés à la violence de ce régime. Personne n'est à l'abri. Y compris les gens qui soutiennent ce régime-là. Les exemples sont là, devant tout le monde, pour voir comment les piliers de ce régime peuvent être frappés du jour au lendemain et sans qu'il y ait aucune conséquence. Donc, nous sommes dans un espace où personne n'est à l'abri d'un abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, c'est une pratique quotidienne de ce régime. C'est contre ça que nous nous dressons. Et vous allez voir que certains qui sont des piliers de ce régime, eh bien, le jour où ils sont à leur tour frappés par ce même régime, ce sont eux qui courent et crient après
pour le secours de la société civile, les médias, etc., etc. Donc, nous avons tous intérêt, nous Togolais, quelque bord que ce soit où nous soyons, à nous mettre ensemble pour mettre un terme à ce régime-là. C'est le régime qu'il faut changer, c'est le système qu'il faut changer. Et si les hommes qui animent ce système ne peuvent pas changer, il faut changer les hommes, et les femmes d'ailleurs. Il faut les changer, il faut les remplacer parce qu'ils deviennent un danger pour tout le monde. Ils deviennent un danger pour la République.
Alors finalement, comment y arriver? Vous avez parlé alors de ce rassemblement, alors des uns et des autres, ou du moins de chaque acteur de la société, pour que du moins le tir soit corrigé. Finalement, comment vous allez y arriver?
Ben, je crois que nous allons y arriver par l'explication, en se parlant, en expliquant quelles sont les visions que nous avons, à harmoniser nos visions, parce que nous sommes tous en train de rechercher un espace où la vie soit meilleure pour chacun. Nous sommes tous en train de rechercher un mieux-être pour chaque Togolais. Et pour cela, à un moment donné, il va falloir que nous convergions nos efforts, nous mutualisons nos engagements pour faire face d'un bloc. Ce ne sera pas la première fois, parce que dans le passé, les Togolais se sont déjà massivement mobilisés. Je n'irai pas très très loin. Je vais citer 2012 avec le CST. Je vais citer 2017-2018 avec la coalition C14. Oui, il y a déjà eu de grandes manifestations, de grandes mobilisations contre ce régime. Ce que nous devons améliorer, c'est le leadership. C'est la manière dont cet effort, cette force de la population, c'est la manière dont elle doit être conduite pour produire des résultats. C'est ça que nous devons améliorer. Nous devons apprendre à transformer cette force populaire en force politique, ce qui a peut-être fait défaut véritablement jusqu'à présent. Mais l'expérience est là. L'expérience est là. Et je pense que aujourd'hui, tout le monde est tellement dans la lassitude de cette lutte qui dure depuis plusieurs décennies, que tout le monde veut aujourd'hui que ça s'achève.
Alors quand vous parlez alors de lassitude, justement, c'est-à-dire il y a en quelque sorte ce désintéressement de la chose politique qu'on retrouve alors chez nos concitoyens, les uns les autres qui disent, mais écoutez, allez, la politique, ça ne nous donnera absolument rien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez aussi comme impression que les uns les autres sont totalement désintéressés par la politique?
Les gens sont très préoccupés par le changement de leur vie quotidienne. Les gens sont impatients de voir que leur vie quotidienne s'améliore. Donc non, ils ne se désintéressent pas de la politique. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions. C'est vrai que pendant plusieurs décennies que la lutte dure, on peut nourrir une certaine fatigue. Les gens peuvent se sentir un peu fatigués de lutter en permanence. Mais dans une lutte, on ne peut pas rester couché parce qu'on a trébuché. Il faut se relever et il faut poursuivre la lutte. Et les premiers à se relever doivent donner la main à ceux qui se sentent encore faibles, ceux qui se sentent découragés, ceux qui se sentent qui n'ont plus de force. Il faut remotiver les gens, il faut remobiliser la population parce que il n'y a que la population qui puisse faire face au régime, en bloc, en se mettant ensemble et en parlant d'une même voix. Nous, les leaders, nous devons y arriver. D'une manière ou d'une autre, on doit se parler, on doit construire quelque chose ensemble. Même si il ne faut pas occulter qu'il y a des divergences parfois fondamentales dans l'approche. Et quand il y a des divergences trop profondes, il est aussi impossible de travailler ensemble parce que nous n'avons pas la même compréhension de la lutte.
C'est vrai que quand on prend des gens aujourd'hui sur la scène politique, vous l'avez si bien dit que il y a même d'ailleurs des organisations qui se sont réunies et par après se sont défaits également. Mais concrètement aujourd'hui, où tenir ou du moins quel niveau tenir même d'ailleurs la lutte pour que ça reprenne cette mobilisation dont vous parlez?
Ben, j'ai donné des éléments fondamentaux tout à l'heure. D'abord, il faut faire notre propre autocritique. il faut s'inscrire dans la vérité. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Il y a des choses que j'aurais pu dire en 2017, en 2018, etc. Je me suis tu. Aujourd'hui, j'ai décidé de dire les choses telles
qu'elles sont. Vous pensez que c'est le moment?
Je pense que la démarche qui consiste à toujours cacher ce qui ne va pas au sein de l'opposition, eh bien, ça ne fonctionne pas parce que nous ne nous améliorons pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, simplement. Et que nous soyons également, dans un second volet, nous soyons également dans la sincérité. C'est-à-dire qu'il faut il faut sortir des calculs partisans. Il y a eu trop de calculs partisans qui ont affaibli la lutte que nous menons. Il faut sortir de ces calculs partisans pour mener une lutte citoyenne. C'est-à-dire qui réponde aux besoins généraux, à l'intérêt général, et qui ne soit plus dans les petits calculs que l'on peut faire.
Intéressons-nous à la gouvernance. C'est vrai qu'il y a entre-temps l'IDH, l'indice alors de développement humain, et qui nous faisait croire tout simplement que nous sommes alors le premier alors sur le plan UMOA et quatrième sur le plan CDAO. Et est-ce que ça ne veut pas dire, par rapport même d'ailleurs à ces indices, il y a d'autres également classements, ça ne veut pas dire qu'au moins il y a un effort qui est fait aujourd'hui en matière de gouvernance?
Les classements du Togo sont quelque chose qui m'interroge toujours. Et moi, je me souviens quand la période faste du doing business était à la mode, où les gens de ce régime s'organisaient en privé pour fêter le classement doing business au moment où ils lançaient le PND, mais c'était la fiesta tout le temps. Ils sont premiers ici, ils sont premiers là, et puis patatras, peu de temps après, la Banque mondiale dit, bon, il y a trop de désordre dans ce doing business, on l'arrête. Et le pouvoir togolais a une capacité à s'acoquiner avec des organisations internationales, des membres d'organisations internationales pour polir leur image. Les classements, moi je vois presque chaque semaine au Togo, et tel membre de gouvernement a reçu un meilleur prix ici, et le gouvernement lui-même a réussi un meilleur prix là, etc., etc. Mais concrètement, ce que moi j'observe, c'est que en 20 ans de pouvoir, Fonia Singbe ne nous a pas construit une université au Togo. En 20 ans de pouvoir, on n'a pas construit d'hôpital public au Togo. En 20 ans de pouvoir, on n'a pas construit de marché digne de ce nom. On n'a pas construit d'installations sportives dignes de ce nom. On n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Il y a des tas de choses qui ne sont pas faites en 20 ans de pouvoir. Mais moi, quand je regarde au Ghana ici, Nana Akufo-Addo, ça fait quoi, 8 ans qu'il est au pouvoir? Mais on nous a montré à la télévision des tas de choses qu'ils ont faites en matière d'infrastructures routières, hospitalières, etc. Je ne parle pas des stades. Oh, tiens, regardons du côté est au Bénin ici. Le nombre de marchés de qualité qui sont construits dans tout le pays, c'est simplement phénoménal. En quoi? Et ça fait 8 ans, 7-8 ans de pouvoir. Les infrastructures routières, et l'hôpital de référence qui va être inauguré bientôt. Mais il n'y a pas comme une mesure. C'est ça la réalité. Ce ne sont pas les classements, les chiffres auxquels on peut faire dire tout et n'importe quoi. Mais la réalité de la vie quotidienne, c'est ça.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire que aussi nous avons des énormes défis et que finalement, et ces défis sont totalement... Enfin, il y a un peu de quelque chose qui est fait sur ces défis.
Mais je ne veux pas me contenter d'un peu de quelque chose. On s'en fout d'un peu de quelque chose. On veut que les gens travaillent à la hauteur des attentes du pays, de la population. C'est ça ce qu'il faut. Il ne faut pas se dire, mais il a quand même fait 1 kilomètre de route. Ce n'est pas rien. Il a commencé. Mais ça fait 20 ans qu'il est là. Ça fait 20 ans qu'il est là. Et ce qu'il aurait pu faire en 20 ans, eh bien, si ça avait été un président béninois ou un président ghanéen, peut-être que le Togo serait l'un des meilleurs pays de la sous-région. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas parce que à chaque fois qu'il y a une élection, on met un bout de kilomètre de route ici, on fait un forage qu'on va inaugurer avec FAST. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas cela. Ce que nous voulons, ce que le peuple togolais veut, c'est que sa vie quotidienne s'améliore, qu'on mette en place les infrastructures sanitaires, infrastructures routières, que l'école, nos enfants ne vivent plus, ne fréquentent plus dans des huttes en 2024.
et que vous allez, par exemple, à l'école EPP à Legacito, vous allez voir les établissements inondés depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et rien n'est fait. On déménage les enfants, on va les mettre dans un autre établissement et on abandonne le site. Et c'est une école publique. Hein. On ne peut pas dire que ce sont les privés qui ont construit dans un établissement, dans une zone inondable. Ce n'est pas le cas.
D'accord. Oui, mais on va s'intéresser à ce sujet. Et tout récemment, le 7 août dernier, c'était l'anniversaire alors de l'indépendance alors de la Côte d'Ivoire. Et il y a un fait qui m'a marqué, c'est ce prix national d'excellence que Alassane Ouattara a initié, de telle enseigne que déjà le président Alassane Ouattara, on est déjà à la 11e édition alors de ce prix national. Quand on voit de telles initiatives, et cette fois-ci ce sont 18 personnes hein, qui ont été honorées, distinguées, et ils ont reçu justement, au-delà même d'ailleurs de cette distinction, ils ont reçu également 10 millions alors de francs chacun. Alors finalement, on dirait quand même que quand on voit cela ailleurs, on pourra le faire chez nous aussi, c'est ça?
Quand on voit cela ailleurs, on peut faire mieux chez nous. C'est comme ça, moi, je le vois. Et il faut toujours qu'un État ait une vision. Et il faut qu'un État crée des modèles. Un État crée des références auxquelles les jeunes peuvent s'identifier. Mais vous avez vu, les Jeux Olympiques ont été organisés récemment. Ça a pris fin il y a quelques jours. Mais la Côte d'Ivoire a eu des champions à des niveaux très élevés. En taekwondo, ils ont eu la médaille de bronze après avoir eu la médaille d'or à Rio précédemment. Il y a une vision. Pour le sport, il y a des stades qui sont construits, des infrastructures qui sont construites pour que les gens aient le cadre qu'il faut pour déployer tout leur potentiel. C'est la même chose qu'ils ont fait au niveau de l'éducation. On valorise, on honore les meilleurs élèves. Et ça, ça stimule, ça crée l'envie de faire mieux l'année suivante. Ben, au Togo. Mais on peut faire la même chose parce que les jeunes togolais sont doués d'une intelligence très élevée. Mais on ne leur donne pas le cadre qu'il faut, on ne leur donne pas la valorisation qu'il faut et on ne les pousse pas à avoir des modèles auxquels ils peuvent s'identifier. Ici, les modèles, ce sont des contre-valeurs. Les gens qui estiment, qu'on estime avoir réussi, ben ce sont tous ceux qui sont dans la fonction publique, qui sont dans le gouvernement et qui sont des gens qui finalement sont ministres depuis plus de 15 ans, depuis plus de 10 ans. Et c'est ça qu'on montre à la jeunesse. Où sont nos capitaines d'industrie au Togo? Celui qu'on peut montrer et que voilà, lui, il a créé quelque chose, il a réussi et que tous les jeunes veulent s'identifier à lui. Moi, je ne le connais pas. Je n'en connais pas. Quel est le grand sportif? Oui, il y a des bailleurs. Mais ils sont combien comme ça? Alors que le Togo est pétri de talents. Mais des talents qui se meurent à petit feu parce que si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et quand vous êtes contre nous, on vous brise. C'est ça le régime.
Monsieur Olympio, intéressons-nous à cette question de terrorisme. On sait que depuis un temps, nous sommes confrontés à cette nébuleuse, hein, comme on aime l'appeler, et à cette guerre asymétrique, comme le disait même le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il y a au nord du pays, il y a des attaques qu'on voit ou qu'on constate alors de temps en temps. Alors finalement, comment vous appréciez déjà la lutte du gouvernement dans cette lutte?
C'est toujours un sujet très délicat à aborder parce que le terrorisme, c'est la souffrance. Le terrorisme, c'est des tragédies terribles qu'on ne peut pas évoquer sans un frisson dans le dos. Et le Togo est de plus en plus frappé par ce fléau-là. Et la dernière chose en date que nous avons tous appris avec frayeur, c'est le 20 juillet dernier.
L'attaque de Kipagandi.
Et d'ailleurs, ce n'est pas le dernier parce qu'il y a eu d'autres drames derrière ça. Mais je pense que le régime togolais a toujours fonctionné en autarcie et n'a jamais voulu véritablement associer toutes
les forces vives de la nation à leur gestion des choses. Moi, je me souviens très bien, et je l'avais déploré à l'époque, lorsque la pandémie COVID-19 a frappé le monde entier et le Togo n'a pas été épargné. Eh bien, le Togo a été pratiquement le seul pays de la sous-région où le régime n'a pas cherché à réfléchir ensemble en rassemblant toutes les compétences possibles qui peuvent accompagner. Le Togo, ben, ils se sont toujours retrouvés entre eux, ministres, machin, tout ça, et ils ont géré la chose de la manière dont ils ont pu. Finalement, c'était des scandales de détournement de fonds, de fonds de Covid qu'on a eu en retour. Donc, de la même manière pour la lutte contre le terrorisme, moi, je n'ai pas senti cet appel à la conscience de la population, cette campagne pour sensibiliser la population sur ce fléau, pour que nous puissions adhérer à une démarche. Je ne sais même pas quelle est la démarche. Oui, nous avons entendu que une force particulière a été mise en place et positionnée dans l'extrême nord du pays. Oui, nous avons entendu parler du programme PURS pour aider les plus fragiles dans l'extrême nord du pays. D'accord, mais au-delà de ça, de quelle manière est-ce que le peuple togolais est-il associé à ce drame, à ce fléau-là? Moi, je ne sais pas et je n'en vois pas. Donc, je pense que le régime togolais s'est enfermé dans une façon de faire qui ne peut pas nous aider. Et moi, je constate, malheureusement pour mon pays, malheureusement pour notre population, je constate que le terrorisme est en train de croître. Les désastres sont en train de s'intensifier. Mais il y a lieu que le régime revoie peut-être sa copie. Ne fût-ce que sur l'information. Nous n'avons pas d'information. La dernière fois, c'est le Niger. Le Niger a adressé une correspondance pour présenter les condoléances alors que l'État togolais n'a jamais annoncé qu'il avait un problème de cette nature-là. D'accord? Et bien sûr, l'État togolais n'a pas rejeté les condoléances du Niger. Donc, il y a un vrai problème pour nous, et responsables politiques, où nous avons des difficultés à nous exprimer sur des sujets qui ne sont pas des sujets officiels. Mais nous sommes réduits à suivre les informations parallèles sur les réseaux et par nos propres informations pour nous faire une idée approximative de la réalité.
Oui, mais si le Togo a choisi également le silence la stratégie alors de silence sur les chiffres à communiquer et autres sur cette question de terrorisme, est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie qui doit payer?
Je ne sais pas, en attendant, je ne suis pas sûr que ça paye. Je ne sais pas quels sont leurs objectifs. Peut-être qu'ils atteignent leurs objectifs, je n'en sais rien. Moi, ce que je constate sur le terrain...
Et peut-être c'est pour ne pas créer de psychose au sein de la population.
Je ne sais pas si c'est le silence qui évite la psychose ou le fait que la réalité que les Togolais vivent, c'est que cette crise-là s'intensifie, les attaques s'intensifient de plus en plus meurtrières. Donc... Et est-ce que la stratégie qu'ils ont adoptée produit des fruits? Je n'en sais rien parce que je ne sais pas quels sont leurs objectifs. Moi, en tant que citoyen, je constate que, eh bien, ça s'empire et je m'inquiète. Peut-être faudrait-il qu'eux aussi, ils révisent leur stratégie et peut-être en échangeant, en impliquant les forces vives de la nation, en impliquant les intelligences qui ne manquent pas au Togo, peut-être que nous pouvons avoir une vue commune et être adhérer à une stratégie commune.
Alors, si vous avez une proposition surtout sur ce plan au gouvernement, quelle sera peut-être la proposition?
Moi, j'ai comparé le terrorisme que les États européens ont connu dans les années 70-80 avec le terrorisme que nous rencontrons ici en Afrique de l'Ouest, le Sahel et Afrique de l'Ouest en général. Eh bien, on appelle tout ça terrorisme, mais la nature de ces terrorismes sont différents. Vous prenez en Europe, eh bien, c'était un terrorisme idéologique. Il y avait les Brigades Rouges, il y avait la bande Abadère, il y avait plusieurs groupuscules qui se battaient pour une idéologie, d'une part. D'autre part,
ces groupes se battaient non pas pour conquérir un territoire, mais pour passer des messages politiques. D'autre part, ces groupes ont été combattus par la police, la gendarmerie. Mais ça, c'est d'un côté. Ils ont mis 20 ans pratiquement pour venir à bout de cela. Chez nous, nous avons un terrorisme de conquête territoriale parce que les populations sont faibles. Donc, ces terroristes ont un terreau où ils peuvent recruter, où ils peuvent s'implanter parce que l'État est absent de ces territoires-là. Donc, ils ont le champ libre pour faire beaucoup de choses là-bas. Ça, c'est une chose. Deuxième différence. Dans nos pays, le terrorisme est combattu par l'armée. Donc, c'est la violence extrême. Alors que les forces de police ne sont pas impliquées. Ce qui veut dire que nous sommes dans une dimension complètement différente. Et la faiblesse de nos États, et donc la gouvernance de nos États, a largement favorisé l'extension de ce terrorisme-là. C'est pour ça que nous devons remettre en cause la manière dont nos États sont conduits depuis les 60 ans d'indépendance. Pourquoi nous n'avons pas mis en place un appareil de défense capable de défendre l'intégrité du territoire, alors que nos armées ont été conçues, entraînées, formées pour protéger le régime, pour protéger le chef de l'État, à telle enseigne que même les services de renseignement étaient structurés, formatés pour traquer les dissidents du régime, au lieu que le renseignement soit orienté vers l'extérieur. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, eh bien, nous devons mener une réflexion profonde pour revoir la nature, les fondements de nos États. Est-ce que c'est fait? Je n'en sais rien. En tout cas, je constate qu'au Togo, on déploie encore beaucoup d'énergie pour la conservation du pouvoir. Quand c'est comme ça, eh bien, c'est autant d'énergie qu'on ne met pas à réfléchir sur le développement du pays. Et c'est ça le drame que vit le Togo.
Nathanaël Olympio, nous sommes en train de discuter alors de certains sujets, alors de la vie politique de notre pays. Il est déjà midi et comme le principe de l'émission demande à ce que nous ouvrons aussi l'antenne alors à nos auditeurs, nous allons leur donner la parole. Ils vont aussi s'exprimer et c'est sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Je rappelle tout simplement que nous recevons aujourd'hui Monsieur Nathanaël Olympio. Il est le président du parti des Togolais et aussi porte-parole alors de du front Touspa à ma constitution. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, Quel avenir pour la France en Afrique, et c'est un ouvrage, nous allons revenir également même d'ailleurs dans une autre émission sur cet ouvrage, un ouvrage qui est très 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 riche. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs, nous revenons juste après.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse spéciale que nous animons avec Nathanaël Olympio ce matin. Monsieur Olympio, je vais vous prier alors de porter votre casque pour écouter vos compatriotes qui certainement vont vous poser des questions. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour Basile. Comment vous allez?
Comment vous allez?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
Ah, je salue Monsieur Nathanaël Olympio. Je respecte beaucoup. Mais qui aime bien châtie bien. Je viens premièrement à la Constitution. Quand je l'entends, j'entends son groupe. Tout ça là, je veux lui demander, c'est parce que l'Assemblée nationale là a dépassé son mandat légal et qu'il a et qu'elle a changé la constitution, c'est à cause de ça que ils contestent la constitution. Si c'est ça, ça veut dire que si c'est pas que le mandat est dépassé, ça veut dire que l'Assemblée là peut changer la constitution. Moi, c'est la première question. Pour le reste, non, il me pose beaucoup là, il ne va pas bien me répondre. Je pense que ça n'a qu'à s'arrêter.
Mais l'essentiel, c'est de poser la question d'abord avant d'avoir la réponse et dire que non, on va pas bien vous répondre. Basile, ok, merci pour cette intervention. On donnera la parole tout de suite à Monsieur Olympio de répondre, mais nous attendons encore d'autres auditeurs. 90, 86, 35, 35. 91 36 63 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse de ce jour, bien sûr. Alors, Monsieur Nathanel Olympio, vous avez écouté votre compatriote Basile qui vient de poser la question de savoir, mais est-ce que c'est parce que le délai de l'Assemblée nationale est totalement avancé? C'est pour cela même d'ailleurs que avant quand même qu'il y ait ce changement à l'ordre de constitution, c'est pour cela que vous contestez la constitution ou bien il y a d'autres motifs?
Oui, bien sûr que si M. Basile avait suivi de près les différents arguments que nous avons avancés dans la contestation de ce changement de constitution, il aurait compris que...
Monsieur Olympio, si vous le permettez, je vais recevoir cet auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Canal FM, c'est Richard depuis Copenhague.
Oui, Richard depuis Copenhague. Richard,
je n'ai pas de retour, je n'ai pas une radio, j'écoute l'émission sur mon téléphone portable. J'aimerais poser, j'ai trois petites questions pour mon compatriote Olympio. Bon, la première question, j'aurais appris que les opposants qui vivent en dehors du pays sont des vrais opposants. Tout à l'heure, il a fait son discours, on a bien compris, mais par rapport à la manière dont d'autres opposants parlent sur les médias, ceux qui ils étions des autorités au Togo, les anciens ministres, aujourd'hui, ils parlent comme des brigands, excusez-moi le mot. Est-ce la manière dont il parle aujourd'hui, il n'y a t pas une différence? On ose croire que ceux qui sont en dehors du pays, ils sont les vrais opposants, eux. Bon, ma deuxième question, depuis que ces jeunes sont en prison, qui me disent concrètement quelle action il a menée? Est-ce qu'il arrive à dormir? Cette personne, lui dit que ce sont des prisonniers politiques. Moi, je ne pense pas qu'ils sont des prisonniers politiques. S'ils étaient des prisonniers politiques, eux, ils sont plus politiques que ces jeunes. J'aurais demandé qu'ils aillent prendre leur place en prison. Ma troisième question, vous ne pensez pas que cette jeunesse est fatiguée de cette histoire? La jeunesse, aujourd'hui, veut pouvoir aller au travail, gagner leur pain quotidien. Le seul opposant au Togo, c'est la pauvreté. Mais j'ai fait. C'est la pauvreté. Arrêtez de malmener cette jeunesse. S'il vous plaît.
Oui, mais Richard, je pense que vous avez déjà épuisé les trois questions. On va vous répondre à ces trois questions dans quelques instants. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Alors, Monsieur Olympio, on répond à la question de Basile avant d'aller vers les questions de Richard.
Oui, je disais simplement qu'il y a plusieurs motifs qui ont motivé le rejet de ce changement de constitution. En dehors du fait que le mandat des députés était terminé, il y a également le fait que le peuple togolais n'a même pas été informé de l'intention de modifier ou de changer la constitution. Ça aussi, c'est un point très grave. D'autre part, le peuple togolais ne connaissait même pas le contenu de la constitution qu'on voulait mettre en place. C'est autre chose également. Et tierso, la constitution de 1992 qu'ils ont essayé, qu'ils tentent de changer, mais cette constitution-là dit clairement qu'il y a des dispositions qui ne peuvent être modifiées que par voie référendaire. Et par rapport à ça, il faut rappeler à tous les Togolais, et particulièrement aux autorités togolaises, que l'histoire de Togo, qui a connu jusqu'à présent quatre républiques, eh bien, le passage à chaque république s'est fait avec
la sollicitation du peuple à travers un référendum. Cette fois-ci, tout le monde a compris, l'objectif poursuivi par M. Fonia Singbe, c'est d'éviter l'élection présidentielle de 2025 qui s'annonçait. Et donc, il fallait trouver l'artifice pour déjouer les choses et tenter d'imposer au peuple togolais cette espèce de constitution dont on ne comprend absolument rien du tout, à quel régime ça correspond. En tout cas, le régime parlementaire qui a été inventé ailleurs dans le monde n'est pas défini comme ce qu'on est en train d'imposer aux Togolais. Celui qui est supposé détenir l'essentiel du pouvoir dans un régime parlementaire est avant tout un élu au suffrage direct par le peuple.
Alors oui, Richard, la question de Richard, c'est cette question concernant les vrais opposants. Il semblerait que ceux qui sont... Alors, je reçois d'abord cet auditeur. Allô?
Oui, je reviens.
Oui, Basile.
Basile. Allô?
Oui, Basile, vas-y.
Voilà, j'ai entendu sa réponse. Il ne pense pas que, il dit ce matin, il y a une disposition dans... la constitution de 92 qui ne permet pas ça. C'est pas mieux que on attend tout le monde, l'Assemblée a dépassé son délai. Pourquoi aller dans tous les sens? Mais les gens ne vont pas bien attendre vos comptes. Il y a une disposition qui dit qu'on ne peut pas le faire. C'est ça que vous pouvez tenir comme information. Moi, mon avis. Manifestement, nous dit, mais je dis que ce sera un argument très solide. Même dans la diaspora, dit que c'est une assemblée qui a dépassé. Ça, c'est quoi ça? C'est ceux-là qui gouvernent. Ils disent que non, c'est pas ça. Mais vous ne pouvez rien.
Bon, d'accord. Merci, Basile. Je pense que c'est votre dernière intervention, hein, déjà dans cette émission pour le compte à l'heure d'aujourd'hui, puisque c'est deux fois que nous acceptons justement l'intervention à l'heure des auditeurs. Alors, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Voilà, monsieur Olympio, on répond à la question de Richard qui demande à savoir, quand on parle alors des vrais opposants, il semblerait que ceux qui sont à l'extérieur et qui aussi mènent la lutte comme vous, ce sont eux qui sont plus alors les vrais opposants.
Moi, vous savez, je ne suis pas certain que il y ait ce type de classification. Et ce que je voudrais faire comprendre à M. Richard, c'est que quel que soit l'effort qui est déployé à l'extérieur, qui peut être très important, qui peut être très efficace, cela n'aura de résultats concrets que sur le terrain au Togo. Ça veut dire que si vous estimez qu'il n'y a pas de personnes qui se battent sérieusement contre le régime au Togo, mais de quoi vous vous préoccupez alors? Et si vous pensez que les seules forces de la diaspora suffisent pour changer les choses, je ne vois pas pourquoi vous intervenez dans ce qui est en train d'être fait dans ce studio-là. Non, je pense que il faut sortir de ce débat, de chercher à qualifier de bon opposant celui qui est en exil et de mauvais opposant celui qui est sur le terrain. Ça n'a aucun sens.
D'accord.
Et c'est pas responsable non plus.
Et sa deuxième question porte sur des actions que vous avez menées à l'endroit alors des prisonniers politiques.
Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de vanter sur les ondes, mais même s'il était avéré que nous n'avions rien fait précédemment, est-ce la raison pour laquelle on nous reproche de faire quelque chose aujourd'hui? Cela n'a pas de sens. Les gens, nos héros sont toujours en prison et toute initiative et toute force qui peut se joindre à ce qui a déjà été fait précédemment, de mon point de vue, est toujours bienvenue.
Richard, l'impression que la jeunesse est fatiguée de la vie politique alors du Togo.
Peut-être parle-t-il au nom de la jeunesse. Je ne sais pas si lui-même il est toujours jeune. La voix que j'ai entendue me fait penser à un homme mûr. Je pense que si on baisse les bras parce que la lutte a été trop longue, ça veut dire que nous laissons en héritage à nos enfants et à nos petits-enfants une vie qui sera encore beaucoup plus difficile que la nôtre. Moi, je ne peux pas l'accepter et je pense qu'il y a un grand nombre de Togolais qui ne peuvent pas l'accepter. C'est pour ça que tout ce monde-là, tout ce monde-là sort dans les rues, comme ça a été le cas en 2017, comme ça a été le cas en 2012. Alors, arrêtons de dire que la jeunesse est incapable de comprendre ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas bon pour elle. Laissez la jeunesse décider. Et la jeunesse n'est pas une entité que chaque matin quelqu'un peut manipuler. Laissez l'intelligence de la jeunesse s'exprimer. Ils sont capables de décerner ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas.
D'accord. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Alors, sur la question alors de Richard, je voudrais revenir un tout petit peu sur cette initiative hein, des personnalités alors de l'extérieur, hein, qui sont à l'extérieur, des Togolais qui sont à l'extérieur. Je veux bien parler alors de Freedom Togo, ce mouvement qui a été créé tout récemment. Alors, quelle est votre appréciation sur ce mouvement?
Je crois qu'on ne peut pas dénier à un Togolais de s'engager à sa manière dans la lutte contre le régime qui est en place au Togo. Que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, les motivations de voir un Togo prospère et démocratique sont les mêmes. Et chacun se bat avec les moyens dont il dispose, avec les conditions qui sont les siennes aujourd'hui, et ceux qui sont à l'extérieur, ils font un travail formidable, moi je trouve, et chercher à rassembler des gens pour parler d'une voix, ça n'a jamais été quelque chose de facile. Et donc, il faut comprendre la démarche et il faut saluer la démarche. Moi, je salue cette démarche-là. Clairement, je le dis.
Mais est-ce que déjà des stratégies sont utilisées alors pour en quelque sorte une mutualisation des forces avec vous qui êtes sur le terrain?
Comme je le disais tout à l'heure, toutes les initiatives qui peuvent être prises à l'extérieur par la diaspora pour accompagner ce qui se fait sur le terrain, c'est indispensable, c'est utile et il faut favoriser cela. D'accord? Et donc, tout à fait naturellement, et que ce soit en France, aux États-Unis, en Europe, de manière générale, en Allemagne, en Belgique, en fait, et en Afrique, toute cette diaspora-là, nous devons parler avec elle pour que la contribution des uns et des autres aboutissent à ce que nous recherchons tous.
Alors, monsieur Olympio, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Quel est votre mot de la fin?
Je crois que nous qui sommes en train de nous battre pour voir une alternative à la tête de l'État, on doit être préoccupé par une chose importante, c'est de conserver la stabilité de notre pays après le changement. Parce que le changement interviendra de toute façon, d'une façon ou d'une autre, ce changement interviendra. Et donc, on doit avoir pour préoccupation de s'assurer que après le changement, on ne va pas passer l'essentiel de notre énergie à chercher à rétablir une stabilité. C'est extrêmement important. Deuxième chose à laquelle moi j'appelle tous les Togolais, c'est que nous avons besoin d'une réconciliation dans ce pays. C'est ce que Monseigneur Barriga, paix à son âme, c'est ce qu'il nous a légué avant de partir. La réconciliation, un travail qu'on lui a demandé de faire, qu'il a fait avec beaucoup de tact, avec beaucoup de sagesse, même si les recommandations qu'il a mises dans son rapport n'ont pas été suivies comme il se doit, n'ont pas été complètement suivies, n'ont pas été bien suivies, et nous avons aujourd'hui un résultat complètement mitigé qui ne correspond pas aux attentes de Monseigneur Barriga. En tout cas, il a laissé un héritage, celui de la réconciliation. Nous devons tous avoir à l'esprit, nous, surtout nous qui nous battons pour le changement, nous devons avoir à l'esprit que cela doit se faire dans le sens de la réconciliation. Et dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que aujourd'hui, l'armée togolaise est confrontée à une situation inédite. Affronter le terrorisme. Moi, j'appelle chaque Togolais et chaque Togolaise à apporter son soutien à cette armée qui en a plus que jamais besoin. Nous devons laisser de côté les récriminations. Nous devons laisser de côté les choses qui nous ont séparés. Nous devons laisser de côté tout ce que nous sommes en train de reprocher à certains militaires, surtout les généraux, les officiers, qui n'ont pas toujours été honnêtes avec le peuple togolais. Nous devons laisser tout ça de côté et apporter un soutien ferme et sans réserve à la force de défense nationale.
Nathaniel Olympio, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais, aussi porte-parole du Front Tous par ma Constitution. Vous êtes également auteur du livre « Quel avenir pour la France en Afrique ?» Et comme je le disais, nous allons revenir certainement alors sur cet ouvrage dans une autre émission. Merci d'être passé. Ça a été vraiment tout un plaisir d'être avec vous.
Merci de m'avoir invité. Merci à tous les auditeurs.
Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi et vous qui avez eu à contribuer à ce débat à travers vos appels et également dans cette émission ou votre implication dans cette émission. Thomas était d'ATVI à assurer la mise en onde lors de l'émission. Jérôme Dakoutia a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Yeah.